Aujourd'hui, on va évoquer quelqu'un qui est mort au moment d'un scrutin décisif et un titre est resté, un titre de libération.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
Claude François a volté.
Mes chères Françaises et mes chers Français, je vous ai indiqué les données du bon choix pour la France. Je sais que vous y avez réfléchi, je vous en rappellerai ce soir l'essentiel. Et je remercie la municipalité de Chanona dans le Puy-de-Dôme de m'avoir donné l'hospitalité pour le faire. Vous aurez à prendre une grave décision nationale. Vous serez conduit à choisir, non pas en termes de préférence ou de mécontentement, mais en termes de raison. Que vous dit la raison ?
Le rapprochement de Valéry Giscard d'Estaing et de Claude François est-il si incongru ? Le chanteur a été l'invité du président au Noël des enfants de l'Élysée en 1975. À ce moment, à dire vrai comique, en a succédé un autre, tragique. À la veille des législatives décisives de 1978, et alors que Giscard a menacé, si sa majorité n'est pas reconduite, de quitter Paris pour se retirer au château de Rambouillet, Claude François meurt, boulevard Exelmans, électrocuté dans sa salle de bain à 39 ans. Mais, au-delà du contingent, si l'époque Claude François coïncide avec celle de Giscard, c'est pour des raisons qui tiennent à la maîtrise des techniques. À l'époque, la variété française couche encore dans des draps de satin, elle vit sur un haut niveau d'adhésion, vend beaucoup. Et, comme le giscardisme, elle sait se tenir au centre de compétences diverses. Il y a le studio, avec ses arrangeurs qui connaissent les avancées techniques d'outre-Manche et d'outre-Atlantique. Il y a la scène, avec ses musiciens, ses éclairages. Quand on pense que pendant la campagne présidentielle de 1965, on avait encore du mal à plonger une grande salle dans le noir et à y promener des faisceaux de lumière. Il y a le plateau de télévision. Clo-Clo, comme Valéry, pouvait s'y montrer décontracté parce qu'il avait tout prévu précisément. Le président, en mars 1978, s'apprêtait à engranger un succès inespéré. Libération titrée à propos du chanteur qui disparaissait, à volter. Tant d'années après, le journal, s'il est toujours heureusement vivant, a perdu de son aura. Giscard parle avec parcimonie, de peur de ne plus être entendu. Claude François reste écouté, récompense sans doute d'un travail professionnel qui a été fait exactement et repris et approfondi sans que cela se voie.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Philippe Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Aux Presses universitaires de France, heureusement qu'il y a cet éditeur sérieux, un livre sur l'art difficile de Claude François. Alors on connaissait peut-être de vous deux ouvrages consacrés à Michel Foucault, un autre au philosophe danois Kierkegaard. C'est une question qu'on doit vous poser parfois. Êtes-vous sûr d'avoir fait le bon choix ?
Je l'espère, mais plus que cela, j'en suis convaincu. Ça a été pour moi un objet d'étude absolument passionnant. Et je pense que, en tant que philosophe, on est intéressé par tout ce qui fait problème. Et à mon avis, Claude François fait problème dans notre culture. Nous avons du mal à en parler, nous avons du mal à lui accorder sa juste place.
Parce que votre entourage vous disait, mais tu pourrais peut-être écouter les Beatles, essayer de faire votre rééducation musicale. Et là, vous retrouvez ce que vous étiez dans votre enfance et votre adolescence, vous sortez de la clandestinité.
Absolument, mais il m'a fallu du temps pour sortir de cette clandestinité. J'ai redécouvert Claude François il y a quelques années, je me suis rendu compte que ce n'était pas de la chansonnette, que c'était de la bonne chanson, aussi bonne que la pop anglo-américaine que j'avais appris à écouter comme les Beatles, comme vous le dites bien. Mais j'ai mis du temps à vraiment à me convaincre qu'il y avait là un objet d'étude et véritablement un art musical, un art de la chanson extrêmement précis, extrêmement singulier, qui méritait véritablement enquête.
Parce que vous, vous êtes d'une génération chez qui le son, le rythme prime sur les paroles.
Et c'est pour ça que Claude François peut-être n'a pas toujours trouvé sa place dans ce qu'on appelle la grande chanson française. C'est justement que son aventure musicale est d'abord une aventure du son. Il avait parfaitement compris que c'était dans le studio que ça se passait, avec un certain nombre de professionnels autour de lui, et qu'être chanteur, c'était pas seulement une voix et une âme.
Les yeux fermés. Le chef-d'œuvre à l'horizon.
La guitare sur la poésie, une subjectivité qui s'épanche. Avec Claude François, d'ailleurs, on n'est pas du tout dans le pathos.
Non, on est dans la précision. Précision de l'attaque, notamment.
Si les apparences sont quelquefois contre moi, je ne suis pas ce que l'on croit. Contre l'aventure de chaque jour, je changerai demain la joie d'un seul amour, mais je suis là comme avant, mal aimé, je suis le mal aimé, les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies, et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi?
Au fond, il y a de la mélancolie, là. La mélancolie d'être mal aimé. Des puissants, des sachants, des intellectuels.
Mal aimé durant sa vie, très certainement, effectivement. Voire même, je pense qu'il a toujours beaucoup souffert de cette forme de mépris qui venait d'une certaine intelligentsia. Et il a toujours dû faire face à cela, absolument.
Alors, quelques définitions, parce qu'on est dans une émission d'auditeurs aimant être des sachants. Définition de la variété, qu'est-ce que c'est pour vous ?
Étymologiquement, variété, c'est ce qui emprunte à des genres variés. Et c'est vrai que c'est difficile à définir parce que dans une chanson de variété, vous pouvez entendre de la salsa, vous pouvez entendre un peu de Beethoven, vous pouvez entendre beaucoup de choses. Maintenant, je dirais que la variété, en particulier en France, c'est défini de plus en plus comme une certaine chaîne de production avec, on va dire, la rencontre d'un faisceau de compétences professionnelles. Et peut-être qu'il faut revenir à l'histoire de la chanson populaire enregistrée et se rappeler que l'époque Claude François, on est dans l'âge d'or du vinyle, c'est-à-dire de 1956 jusqu'en 1975, la croissance de l'industrie du disque est une croissance à deux chiffres, c'est-à-dire que dans ce monde de la chanson et la variété, qui est le domaine où l'on vend le plus, on a des moyens. Et donc, faire une chanson de 3 minutes, ça va mobiliser une armée en campagne.
Avec, à la tête du commando, un chanteur chez qui la compétence doit être extrême. Comme votre enfance, bercée par Claude François, malgré votre entourage, est au cœur de votre livre. Voici une chanson que vous aimez bien. C'est une chanson dont le cœur secret est l'enfance de Claude François. C'est un disque de 8 à 88 ans, c'est ça, un 33 tours ?
Absolument, tout à fait.
Qui date de la fin de sa vie.
Nicolas François Dupont était un bon petit garçon, mais pas très obéissant, il avait ça dans le sang. Un matin, il décida de quitter la maison, simplement pour aller voir par-dessus l'horizon. Nicolas François Dupont devait passer par le pont, mais le pont était gardé, pas moyen de s'évader.
Je voudrais être chanteuse et j'aimerais que tu me conseilles.
En admettant que tu aies envie d'être chanteuse, n'oublie quand même pas que le chant, c'est de la musique. La musique, c'est de la technique. Il faut apprendre le solfège, ça prend des années. Il faut apprendre la musique après le solfège, qui est une forme de technique de base. Il faut apprendre la musique dans le sens de l'expression de ce que tu as envie de faire musicalement, c'est-à-dire le chant. Il faut apprendre la musique en chantant. Il faut savoir lire une partition et déchiffrer une partition en chantant. Et il faut pendant de longues années apprendre à chanter dans, alors là c'est encore beaucoup plus vaste et indéterminé, dans le répertoire que tu auras choisi d'interpréter. Et un beau jour, quand tu seras sur une scène, après que tu aies pensé à des tas de chanteurs et chanteuses, il faudra que tu oublies tout ça pour être toi-même. Mais pour être chanteur, disons qu'il faut savoir que ça va être très compliqué et qu'on ne doit penser qu'à un seul intérêt, un seul plaisir, l'unique, c'est celui de chanter pour l'amour du chant. Et tout suit, si ça doit suivre. Mais il faut jamais penser à autre chose que le chant pour l'amour du chant.
Pour s'évader, je reprends les paroles de Nicolas, François Dupont de l'Égypte, où il est né en 1939, et où la vie de petit blanc, c'est son milieu, devient un peu malaisée au milieu des années 1950. Il faut travailler, travailler, travailler.
Absolument, et c'est vrai que cette réplique de Claude François, une petite fille qui l'interroge sur le métier de chanteur, est particulièrement cruelle dans une émission où il fallait d'abord faire rêver le jeune auditoire. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important chez Claude François, c'est cette mise en avant de la profession. C'est-à-dire que d'abord, pour lui, être chanteur est une profession, c'est un travail, c'est l'acquisition d'une technique jusqu'à un niveau d'excellence. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Claude François ne fait pas rêver toute une partie du monde auquel j'appartiens, le monde intellectuel, c'est qu'on aime bien que les artistes, justement, représentent une certaine forme, on va dire, qu'ils soient en possession de ce qui nous manque, c'est-à-dire, justement, l'artiste, c'est normalement, c'est la personne libre qui bénéficie d'un talent inné, qui a une inspiration, qui le surprend le matin. Et bien là, Claude François va nous dire non, c'est d'abord du travail et ça va être très dur. Et effectivement, que quand il parle de son art, c'est d'abord en ces termes-là.
Formation classique, conservatoire, batteur de jazz. Vous dites que dans le jazz, il aime le répertoire complexe. Et puis après, études de chant dans des conditions difficiles et se produire dans des casinos comme il l'a fait à Monte-Carlo face à des gens qui pensent d'abord à manger. C'est une sacrée assaise.
C'est là où il a appris le métier. Et en même temps, sacré à 16, et c'est dans ces casinos, comme vous dites, dans le grand orchestre des Bains de Mer de Monaco, qu'il apprend à se confronter à quelque chose pour qui il va avoir le plus grand respect, c'est le public. Il va être attentif à comment le public réagit, ce que le public aime. Et ça, effectivement, quand on est chanteur, c'est quand même pour s'adresser à quelqu'un, s'adresser à un public. Il faut quand même rencontrer ce que le public attend. Et en même temps, sans rien renier d'une certaine exigence.
Et attendez, moi, pour moi, la chanson populaire, vous allez dire que je suis romantique, c'est la chanson qui vient du peuple. Vous, vous dites que c'est la chanson qui plaît au peuple.
Eh ben, absolument, je pense que il y a une forme, si vous voulez, le grand art de la chanson populaire, c'est de donner l'illusion que tout le monde est capable de la faire et que tout le monde est capable de la fredonner sous la douche. Or, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire si ça sonne aussi bien, c'est justement parce qu'il y a derrière tout un ensemble de métiers, de compétences qui, en France, vont véritablement se perfectionner, milieu des années 60, jusqu'à ce que des studios indépendants se créent à Paris, il y en a même dès le début des années 60, où là, véritablement, ça va être, comme je disais, une aventure du son.
Et alors, comment ça se passe dans un studio des années 60, des années 70, à Paris, aussi bien à Londres, parce que Londres a beaucoup d'influence. En matière d'enregistrement, vous dites, il faut faire très attention à la façon dont on enregistre, au rôle des arrangeurs, au rôle des techniques.
Alors ça, c'est quelque chose qui est venu de la pop anglo-américaine, c'est-à-dire prendre véritablement conscience qu'une chanson, c'est d'abord du mixage, c'est-à-dire c'est la capacité à mettre ensemble des pistes qui ont été enregistrées séparément, et c'est leur rencontre, c'est leur mélange qui va permettre justement de créer des sons nouveaux. Alors que traditionnellement, quand on va en studio et qu'on enregistre dans les années 50, quand Brel va en studio ou quand d'autres, quand Brassens va en studio, c'est d'abord...
Je sens que vous allez dire des méchancetés.
Absolument pas, mais je pense qu'à l'époque, on a d'abord l'image de la scène en tête. Et l'arrangeur écrit d'abord pour la scène. Et d'ailleurs, quand on entend Brel, quand on entend les enregistrements studio de Brel, c'est vraiment frappant. C'est des arrangements qui sont faits pour être joués sur la scène de l'Olympia. Ce n'est qu'après, outre-Manche et outre-Atlantique, qu'on se rend compte que le studio est un instrument à part entière. Et s'il y a un chanteur en France qui est sans doute l'un des premiers, peut-être même le premier à prendre conscience de cela, et qui dit, je l'ai entendu dans une émission, je crois que c'était 71, qui dit, le secret d'une chanson, c'est le mixage. Vous avez beau avoir la meilleure des mélodies du monde, les meilleurs musiciens, un mauvais mixage, c'est la chanson qui est ratée.
Alors à Londres, Studio Trident, Et puis, ici, il évoque les studios de Détroit dans une émission un petit peu postérieure à la date que vous citiez, c'est Top A en 1973.
C'est une marque de disques très spéciale. Elle se situe à Détroit, c'est une ville dans le nord des États-Unis. Et à Détroit, il y a beaucoup de Noirs qui travaillent dans des usines de voitures. Et là-bas se situe cette fameuse marque de disques où on enregistre des chansons. Et les chansons ont cette simplicité absolue de se baser en général sur deux harmonies minimum quand même, et quelquefois sur trois ou quatre harmonies maximum. Vous allez voir, on va essayer de faire un essai. Tu me fais un do mineur septième par exemple, et un sol mineur septième maintenant, correspondant. Voilà, on va le faire en rythme, tu vas voir. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, voilà. On rajoute un petit peu en général de la basse. Vas-y Tony, un petit peu de basse. Sur ça, 1, sol mineur septième. 1, 2, 1, whenever you need me, I'll be there. Tumba, tu peux, vas-y. Grosse caisse, vas-y Pierre-Alain, grosse caisse. Contre-temps, le fameux contre-temps d'Alain. Hey, ma droite me lance un bal avec. Whenever you need me, I'll be there. Whenever you love me, I'll be there. Whenever you want me, I'll be there.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Et oui, la chanson exactement, c'est un art difficile, notamment quand il est pratiqué par Claude François, un livre de Philippe Chevalier aux presses universitaires de France. Là, il était question de la grande usine à tubes de Détroit.
La Motown, absolument. Il admirait véritablement le travail de la Motown. Il a été d'une certaine manière un introducteur de la Motown parce que dans les années 60, en France, on connaît très peu, en fin de compte, de la soul musique américaine. On ne connaît que quelques grands noms, mais la Motown, quand elle vient à Paris, lors de sa tournée internationale, la Motown, il y a la tournée Motown qui passe à l'Olympia en 65, je crois que c'est à l'Olympia, je ne suis pas absolument sûr, c'est un échec. Ça ne marche pas. Mais en 68, c'est Claude François qui présente à la télévision française l'un des grands groupes de la Motown, les Supremes. Et je pense que ce qu'il aime dans la Motown, c'est cette précision du rythme. C'est-à-dire, on ne démontre pas qu'on est un grand musicien, on fait pratiquement jamais de solo, mais on se concentre, on tient juste le rythme, on verrouille le rythme. Et Claude François, son art musical, c'est sa capacité, c'était un batteur, comme vous l'avez rappelé, à tenir le rythme seulement, mais absolument.
Mais il faut être précis, hein, faites attention, Philippe Chevalier, parce que faut être précis aussi dans les érudiciens, 64, 65, est-ce que c'est suffisant? Beaucoup de nos auditeurs vous corrigeront peut-être. Ils ont été, pour un certain nombre aussi, peut-être surpris d'entendre la façon dont Claude François chante en anglais. Selon vous, c'est un autre chanteur en anglais. Faites attention là, vous risquez de froisser aussi quelques susceptibilités.
C'est très intéressant de réfléchir à l'art vocal de Claude François, qui est un art extrêmement tendu. Et je pense qu'il a un tel surmoi, qui le surveille, qu'il a beaucoup de mal, en fin de compte, en tant que chanteur, mais ses défauts font ses qualités, à être libre par rapport au tempo. Et quand il chante en français, il chante toujours sur les temps. Alors qu'on est habitué chez un Aznavour, on chante un petit peu au-dessus des temps, on se balade au-dessus du rythme. Et c'est quand il va chanter en anglais, assez curieusement, je me suis dit, mais là, Claude François, enfin se lâche, ce qu'il se refusait à faire en français, il se le permet en anglais, il chante au-dessus des temps, il chante en retard, il chante en avance, comme les grands chanteurs américains qu'il admirait, comme un Sinatra qui était toujours un petit peu en avance, toujours cette espèce d'art du décalage. Claude François, en revanche, c'était un tel obsessionnel que normalement, en temps normal, en français, il ne s'autorisait aucun décalage. Le temps et rien que le temps.
Mais il s'intéresse à ce qui se passe aux États-Unis et en Angleterre. C'est une grande oreille. Alors vous décrivez dans son appartement un appareil de veille
qui permet d'écouter ce qui passe sur les antennes américaines et...
Il avait un appareil radio qui lui permettait non seulement de capter, mais d'enregistrer ce qui lui plaisait. Et c'est vrai qu'il écoutait absolument tout ce qui sortait en Angleterre et aux États-Unis, à l'affût, bien entendu, du tube qu'il pourrait ensuite adapter en France, mais aussi tout simplement parce que c'est là où musicalement il se forme, c'est là où il entend les nouveaux sons, et c'est là où il trouve de nouvelles idées musicales.
Parce qu'au fond, Claude François, c'est 70% de reprise, quoi.
Oui, mais l'art de la reprise, c'est l'art du jazz aussi bien. Le jazz est fait que de reprises, le blues est fait que de reprises. Je pense qu'il faut se libérer de cette idée que l'artiste est un créateur, c'est-à-dire qu'il parle d'une espèce de table rase, et finalement l'artiste ne serait respectable que si du silence, tout d'un coup, un mot inouï, inédit est enfin prononcé. Avec Claude François, il se modèle, il entre dans des formes musicales qui le précèdent, simplement il les investit et les pousse à leur perfection.
Oui, mais enfin, quand la reprise, c'est la reprise de ce qui marche déjà ailleurs.
Quand on regarde attentivement, soit il reprend des choses qui ont marché ailleurs, et alors par exemple la Motown, il aime beaucoup reprendre la Motown, mais c'est parce qu'il aime ces chansons, et il y a une forme de beauté, je trouve, dans le geste de la reprise aussi, c'est un hommage aussi. Mais quand on regarde ce qu'il reprend, il y a aussi beaucoup de petits tubes, ou de chansons qui n'ont pas marché, ou des chansons anglaises-américaines pas très bien fichus, pas très bien ficelés, qui n'ont pas eu toute leur chance encore. Il les entend, il voit que c'est pas très bien il voit que c'est pas bien fichu, mais il se dit, je les ramène à Paris, je les retravaille avec mon arrangeur, dans le studio que j'aime, avec les musiciens que j'aime, et on va vous remettre ça d'équerre.
Mais il y avait même un vieux disquaire de New York, dites-vous, qui lui envoyait des disques.
Et c'est pour ça que quelqu'un comme Olivier Delaveau, qui a beaucoup travaillé sur l'origine des adaptations, a mis beaucoup de temps à retrouver certains originaux, tellement ils étaient enfouis dans les bacs d'improbables disquaires à l'autre bout
du
monde.
Alors, justement, là, il y a un vaste débat d'érudition. Olivier Delaveau a publié un dictionnaire des chansons de Claude François, et il dit que Reste, si je l'ai bien lu, c'est une adaptation en 1968 d'un succès assez récent, mais vous soutenez que c'est une reprise de Frankie Valli et des Four Seasons, et moi j'avais noté 63, mais dans votre tête c'est 67. Alors, vaste débat et comparaison.
I'm J'ai besoin de toi comme toi de moi. Reste, reste, ne t'en va pas. Tu le regretterais presque autant que moi. Quand j'entends la porte se fermer sur toi, quand j'entends au loin s'éloigner ton pas, je me sens soudain tout désemparé. J'ai la tête vide et le cœur serré.
Quand la forme originale lui paraît exacte, il ne touche pas beaucoup à la forme originale, davantage dans certaines occasions.
Là, il touche beaucoup dans le titre que l'on a entendu. C'est une orchestration complètement différente. Et on retrouve vraiment la patte de Claude François qui, de toute façon, contrôlait tout ce qui se passait. Donc, tout ce qu'on entend, c'est aussi lui qui était derrière et qui disait « je veux ça ou je ne veux pas ça ». Chez les Four Seasons, vous avez une intro très longue. Chez Claude François, tout est ramassé dans une intro très très courte. Parce qu'il y avait cette idée que dans la chanson populaire, il faut être clair. C'est-à-dire, ce qu'on a à dire, il faut le dire vite. Il n'y a pas à traîner, vous avez 3 minutes, il faut aller droit au but. Bon, vous avez un orchestre entier qui est beaucoup plus riche, vous avez les cuivres qui s'ajoutent, vous avez la voix qui est doublée, et surtout cette sensation d'angoisse et d'urgence qu'on n'avait pas du tout chez les Four Seasons. Et il faut rappeler que tout ce qu'on a entendu là de Reste, c'est fait en Angleterre.
Mais dites-moi,
avec un arrangeur anglais.
Philippe Chevalier, il y a les arrangeurs, il y a les studios, il y a le pressage des disques, les 33 tours, c'est un autre sillon que les 45 tours, etc. Et puis il y a la scène et le plateau télé. C'est la haute époque des Carpentiers et de Jacques Martin. Et alors lui, il donne l'impression d'improviser. Et en même temps, s'il peut improviser, c'est parce qu'il a préparé. Il est décontracté quand même.
Je trouve pas.
Ah bon ?
Moi, je le trouve toujours extrêmement tendu. Et c'est ce qui fait la différence entre Claude François chez les époux Carpentier ou chez Drucker et tout autre chanteur, c'est qu'il y a cette tension, c'est-à-dire la peur du faux pas. Et c'est frappant. Alors, quand on le voit sur scène, il n'y a pas un concert sans qu'à un moment, il se retourne pour menacer du poing l'un de ses musiciens parce qu'il vient d'entendre une fausse note. Et cette obsession-là, C'est-à-dire, il ne supporte pas le moindre écart, donc la moindre faussonne, mais ça veut dire que cette obsession-là, il a par rapport à lui-même, donc cette tension, quand vous le voyez entrer sur scène, même chez Drucker, vous voyez un homme extrêmement tendu.
Alors, nous sommes là chez Jacques Martin et Stéphane Collaro, c'est une séquence que vous décrivez longuement dans votre livre, L'art difficile de Claude François, on va vous la livrer brute, c'est son dernier passage à la télévision le 28 février 1978. Il y a de très beaux fruits dans le dictionnaire des chansons de Claude François, notamment Magnolia Forever, une des dernières chansons. Là, c'est un fruit quand même un peu vert et acide ce soir-là.
C'est avec un grand plaisir, mesdames et messieurs, que Stéphane et moi, ce soir, vous annonçons sur notre plateau de Music and Music, Claude François.
J'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin de vent et de frisson. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat.
Bon, on n'a pas les images, vous allez nous expliquer le contexte, mais quand même, on sent, alors que vous le décrivez comme l'homme du contrôle absolu, là, un peu stressé, il a volté, hein.
Il a volté là sans doute. Ça c'est caractéristique en fait de Claude François sur scène. Je pense qu'il a besoin, cet art de la musique a besoin de se donner constamment des défis pour se forcer à se dépasser lui-même.
Alors qu'est-ce qui s'est passé là, ce soir-là, le dernier soir à la télé?
C'est que très souvent, en fait, Claude François demandait d'accélérer le rythme. Et d'accélérer le rythme à un niveau qui était intenable, même pour les meilleurs musiciens. Et son guitariste Slim Pezin, que j'ai rencontré pour le livre, m'a avoué, lui qui est l'un des plus grands guitaristes de la scène française, m'a avoué qu'il avait parfois lui-même du mal à tenir le tempo.
Parce que là, la chanson, elle doit durer 4 minutes 15 et il la traite en 2 minutes 45.
Voilà, le tempo est infernal. Alors, il pique une colère que l'on voit en fait sur une vidéo amateur à la fin de la chanson, dès qu'il rend le micro, il pique une colère contre Jacques Martin, il l'engueule comme si c'était vraiment le dernier lieu des hommes. L'hypothèse, c'est que l'orchestre local, et les violons en particulier, ne suivaient pas le rythme.
Mais il a quand même massacré les paroles pour une fois qu'il avait un bon parolier. Je vous laisse répondre à cette ultime provocation, Rodagile.
J'ai toujours trouvé que Claude François avait travaillé avec des grands paroliers et je ne sais pas d'où vient cette réputation que les paroles auraient été idiotes avant Rodagile, qui arrive donc à la toute fin pour renouveler les paroles et avoir justement un parolier, on va dire, qui avait une image un peu plus de jeune intellectuel, qui travaillait beaucoup pour Julien Clerc. Mais malgré tout, les paroles de Rodagile, Claude François a dit très clairement que ça sonnait bien, mais que décidément, cela ne voulait rien dire. Or, je pense qu'il est important que la chanson dise des choses à un public.
Et puis, c'est pas parce qu'il y a Rodagile que c'est commercialement différent. Il y a toujours le même objectif commercial sur les pochettes de ce dernier 33 tours. Il y a marqué disco, en gros. C'est plus gros que Rodagile.
Et c'est la même équipe. C'est Jean-Claude Petit qui est aux arrangements. C'est enregistré à Londres pour la partie rythmique et le studio CBE, qui est l'un des grands studios français à Paris, pour la voix. Voilà, donc c'est la même équipe.
Ça a au moins le mérite de la sincérité. Vous reconnaissez cette grande qualité morale, Philippe Chevalier, à Claude François, la sincérité dans l'art difficile de Claude François, la chanson exactement, Presse universitaire de France. L'émission a été préparée par Marion Philippe, avec à la réalisation Valérie à Estaraï et à la technique, Éric Morin. On passe maintenant avec Mathieu Vidard au cactus du tronc, c'est les cactus. Tout à l'heure, il va parler du monde piquant, c'est pas mal écrit, des cactus, c'est son thème. Il est 14h, vous écoutez France Inter.